Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bienvenue, bienvenue à chacun pour ce temps de culte, que vous soyez ici présent avec nous ou que vous soyez à distance en streaming. Voilà, ben d'emblée, on va commencer le culte par quelques annonces. Donc, je demande à Thierry de venir.
Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, quelques annonces rapidement. Tout d'abord, par rapport au week-end d'église, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, vous savez que les inscriptions sont maintenant officiellement fermées. Pour ceux qui réalisent un petit peu trop tard que c'est le cas, rassurez-vous, on est sympa. Venez nous parler directement. Si vous êtes là, mince, je voulais m'inscrire, je suis désolé, c'est trop tard. Il y a encore possibilité, venez nous voir après le culte, peut-être, on peut dire encore jusqu'à mercredi. Voilà, vous pouvez nous écrire, c'est encore possible, tout particulièrement aussi pour ceux qui peut-être ne se sont pas inscrits parce qu'ils ne peuvent pas venir les deux jours. Vous dites, moi je suis libre que le samedi ou que le dimanche, c'est possible de venir parce qu'on a encore un petit peu de place. On n'était pas sûr si ça serait possible, c'est possible. Donc, si c'est votre cas, que vous dites, moi j'aimerais bien participer, mais je peux venir que le dimanche par exemple, voilà, encore une fois, approchez-vous de nous et puis on pourra regarder ce qui est possible. Aussi, n'oubliez pas de payer. Si vous êtes inscrit, mais que vous n'avez pas encore fait le paiement, n'oubliez pas que c'est ça qui, normalement, valide votre inscription. Attention. Si vous ne savez pas comment faire, venez me voir à la fin du culte. Merci de réserver aussi le 13 juin. Si vous recevez l'actumérien, vous avez vu qu'on a planifié un colloque. Donc voilà, vous avez déjà reçu un peu d'infos. Pour ceux qui reçoivent ces infos-là, vous en recevrez encore. Mais réservez bien cette date du 13 juin. Il y aura l'élection du nouveau conseil. Et puis potentiellement encore d'autres choses qui seront à l'ordre du jour pour ce jour-là. On vous rappelle aussi qu'on cherche des gens pour les POT. Voilà, ministère important, une des priorités de notre Église, qui avait été voilà, décidée en conseil. On a besoin de monde, on a besoin d'un peu plus de monde pour bien tourner. C'est vrai que là, il tourne à quelques personnes. Et le danger, c'est que ces personnes se fatiguent et puis qu'à un moment donné, ça lâche et qu'il n'y ait plus personne. Et on ne voudrait vraiment pas ça. Donc, comme dans tous les services, hein, plus on est, plus c'est facile de faire ce service-là. Donc, merci de penser à ça, de remettre ça aussi dans la prière, et puis de vous engager si c'est une possibilité pour vous. Et puis, dernièrement, dimanche prochain, on vous rappelle qu'on a notre culte, comme ce matin, et qu'il y aura un repas canadien à l'issue du culte. Voilà. Bon culte, et puis à bientôt.
Merci. Un culte de Pâques, un culte qui va nous amener à célébrer le Christ ressuscité. Alors ce matin, il faut que je retrouve ma page, je lisais dans ce petit livre qui s'appelle « Paroles et textes ». C'est un petit livre qui chaque jour propose un verset de l'Ancien Testament, un verset du Nouveau Testament et une phrase tirée de la littérature chrétienne actuel ou passé. Donc, pour dimanche de Pâques, il était écrit « Ézéchias prit la lettre apportée par les messagers assyriens et la lut, puis il monta au temple et la présenta au Seigneur. » 2 Rois 19:14. Dans le Nouveau Testament, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur la montagne pour prier. Luc 9:28. Et la phrase qui nous est proposée est de Antoine Nuis. Le Christ est ressuscité, il est avec nous tous les jours. Que la promesse de sa présence, la certitude de sa délivrance et le souffle de son espérance soient la racine de notre foi, la vérité de notre combat et la source de toute joie. Je vous invite à la prière. Ô Dieu et Père, c'est pour te célébrer que nous sommes là ce matin, car oui, ton Fils Jésus est vraiment ressuscité. Quand on y pense de près, ça paraît complètement fou, et pourtant. Durant cette célébration, que nous puissions percevoir un peu plus le miracle de la résurrection et l'effet qu'elle peut avoir dans nos vies. que ta parole nous éclaire, que ton esprit illumine ce qui doit l'être. Merci de bénir chacun, chacune, les plus petits comme les plus âgés. Au nom de ton Fils Jésus ressuscité. Amen. Alors ce matin, les enfants vont être avec Rebecca. Vous allez bien, les enfants ? Oui, ça va, c'est les vacances, tout va bien. Et en plus, vous avez 2 semaines là devant vous, c'est top. Voilà, donc Rebecca, j'espère qu'elle vous a préparé un super programme. Donc on va vous laisser aller avec elle. Et bon culte à vous. Et puis pendant ce temps, pendant que les enfants descendent, je vous propose de passer les paniers pour l'offrande. Vous le savez, hein, c'est libre et c'est un temps de reconnaissance. Donc, on va commencer par ça ce matin. Et je demanderai à 3 personnes de venir pour le faire. Merci Denise. Les paniers sont là. Ce matin, on avait envie de vous emmener dans la trajectoire de Pâques pour pouvoir comprendre un peu plus le mystère de la résurrection. On avait à cœur de repasser par les étapes de la passion du Christ. Alors, ça va se faire ce matin à plusieurs voies. On va avoir une voie, on va dire plusieurs voies et plusieurs couleurs. On a une voie pour le vendredi, avec une couleur plutôt sang. Une voie pour le samedi, couleur foncée. Et une voie pour le dimanche, avec une couleur claire. Pour chacun de ces moments, on a sélectionné un ou plusieurs textes bibliques. On a sélectionné aussi une peinture tirée de la richesse de l'art et un chant ou une partie de chant. Et chaque voix partagera quelques mots, très courtement, quelques mots personnels. Ce sont les textes de l'évangile de Marc et du psaume 22 qui nous accompagneront ce matin. Et ces 3 moments précéderont la prédication de Philippe et seront précédés, chronologie oblige, par la Sainte Cène. Donc nous allons commencer ce matin ce temps de célébration par la Sainte Cène.
Alors, effectivement, dans cette trajectoire qui nous a été décrite, la Sainte Cène se situe le jeudi. Nous sommes donc jeudi. Et ce repas, c'est le dernier moment où Jésus et ses disciples sont tous rassemblés, tous ensemble. Et pendant ce repas, il y a des choses très importantes qui vont être dites, autant pour la situation qu'ils vivaient à ce moment-là précis, mais aussi pour la suite. C'est aussi un moment de répit, parce que le repas, on le sait, ce dernier repas a été préparé d'avance, tout avait été préparé d'avance. C'est aussi un moment de répit, parce que c'est aussi un moment un peu de bascule, comme lorsqu'on monte à vélo sur un col et puis on arrive au sommet, c'est plat quelques mètres et après ça redescend. Un point d'inflexion, si on veut. Ce point d'inflexion qui va précéder des événements irrévocables qui vont se produire ensuite et que plus rien ne pourra arrêter. Et c'est également un moment dans lequel il y a aussi un peu de joie. Et dans l'institution que je vais vous lire, j'ai ajouté un verset supplémentaire à la fin. Et vous comprendrez pourquoi je vous parle de quelque chose aussi d'un peu joyeux. Je lis donc dans Marc 14 à partir du verset 22 et jusqu'à 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Et maintenant le verset que j'ai ajouté, « Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis s'en allèrent au mont des Oliviers. »
Quand nous nous sommes arrêtés vendredi soir, à l'occasion de Vendredi Saint, pour relire le texte de la scène et prendre ensemble le pain et le vin, dans la trajectoire, tout était encore à venir. Le corps brisé, le sang versé, c'était pour les heures à venir. Et il l'a fait. Et tout est accompli. Et nous sommes maintenant de l'autre côté de l'histoire, de ce côté de l'histoire où nous prenons ce pain et ce vin en souvenir de ce que Jésus a fait et dans la perspective glorieuse de partager un jour ce repas avec lui et les millions d'autres hommes et femmes qui, dans tant de pays, cultures différents, se sont ouverts à la grâce du Christ. Ce jour viendra. Nous sommes entre le déjà et le pas encore. Mais ce matin, avec beaucoup de reconnaissance, nous pouvons partager le pain, partager le vin et nous souvenir de l'œuvre accomplie de Jésus pour nous. Quel privilège.
Si vous désirez boire à la coupe, faites signe à Philippe qui viendra vers vous.
Je lis dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, les versets 21 à 41. Ils l'emmenèrent au dehors pour le crucifier. Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là, alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mélangé avec de la myrrhe, mais Jésus le refusa. Puis ils le crucifièrent et se partagent, ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun emporterait. Il était 9h du matin quand on le crucifia. Sur l'écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, on avait écrit ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils disaient, hey, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres et les spécialistes des Écritures se moquaient de Jésus et se disaient entre eux, il en a sauvé d'autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de sa croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Ceux qui avaient été crucifiés avec Jésus l'insultaient aussi. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là entendirent et s'écrièrent, « Écoutez, il appelle Élie. » L'un d'eux courut emplir une éponge de vin aigre et la fixa au bout d'un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Et il dit, « Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. » Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. Le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort et dit, « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, le petit et de José et Salomé. Elles avaient suivi Jésus et l'avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Je vais maintenant lire quelques extraits du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent. Tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils disent de moi, il a remis son sort au Seigneur. Eh bien que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, eh bien qu'il le sauve. Seigneur, dès ma naissance, j'ai été confié à toi. Ne reste pas loin de moi. Mes adversaires me regardent fixement. Ils se partagent mes habits. Ils tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Sauve-moi d'une mort violente. Jusqu'ici, la lecture du psaume, des extraits du psaume 22. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu quelques deuils, la mort de proches, et je peux dire que la vie, aussi fragile qu'elle soit, tant qu'elle est là, je n'ai jamais été prête à la voir s'éteindre, et lorsqu'elle s'est éteinte, je me suis sentie très abandonnée. Pourquoi m'as-tu abandonnée ? J'avais encore tant de choses à entendre de toi, et tant de choses à te dire, et cette balade qu'on frappa, ces repas ensemble qui étaient toujours bien animés, pourquoi m'as-tu abandonnée ? Parfois, je me demande, au pied de la croix, qui était vraiment prêt à entendre « Jésus est mort » et si certains ont éprouvé, comme moi, le regret de ce qui aurait encore pu être dit ou fait alors qu'il est trop tard. Pourquoi m'as-tu abandonné ?
Je vous invite, si vous pouvez, à vous lever. Nous avons chanté que nous avons un Sauveur merveilleux qui s'est sacrifié pour nous tous. Il est mort sur une croix, attaché à la croix pour nous. Attaché à la croix pour nous.
Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le blanc. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
Je vous invite à vous rasseoir.
Le lien entre le vendredi dont nous a parlé Elisabeth et le samedi, le lien entre ces deux jours, c'est la nuit. Effectivement, le vendredi, après la mort de Jésus, il faut tout terminer avant le coucher du soleil, puisque c'est la préparation du Shabbat. Je lis dans Marc 15, versets 42 à 47. Le soir était déjà là quand arriva Joseph, qui était d'Arimathée. Joseph était un membre respecté du conseil supérieur et il espérait lui aussi la venue du royaume de Dieu. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat. C'est pourquoi Joseph alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Mais Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit donc appeler le capitaine et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap de lin, il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus, regardaient où on mettait Jésus. Donc effectivement, le lien entre les deux jours, c'est la nuit. Le soleil se couche, la pierre est roulée devant l'entrée du tombeau, il fait sombre, il fait nuit. C'est un peu comme lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle ou qu'on nous annonce la mort d'un proche. On va se coucher le soir, il fait nuit, et le lendemain matin, quand on se réveille, on se dit « mais peut-être que tout ça n'était qu'un mauvais cauchemar ». Et en fait, non. C'est le jour suivant, mais il fait toujours nuit. Et l'image que l'on voit derrière nous montre, si on en doutait encore, que le Christ est bien mort. Regardez ses mains, ses pieds, son visage, il est cyanosé. C'est difficile de croire qu'il n'est pas mort. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut retenir de ce samedi, sur lequel peu de choses ont été écrites par ailleurs. C'est sombre. C'est fini, c'est perdu, c'est la nuit. Mais, peut-être il y a un mais.
Pour ce prochain chant, je vous invite à rester assis et de penser à ce samedi de silence et de deuil.
Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur, moi attaché. De larmes trempées dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé.
Dimanche, la résurrection. Nous, on le sait parce que on est au-delà, on connaît la fin de l'histoire. Et on sait que la résurrection, c'est une puissance mais incroyable. c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est une vie nouvelle qui émerge de la mort. C'est extraordinaire. C'est vertigineux. Mais dans ma vie, pour moi, c'est aussi me relever quand c'est nécessaire. C'est percevoir une issue dans l'inextricable. C'est être restauré, revivifié. C'est un mouvement qui donne un nouvel élan, un élan de vie. C'est un renouveau, peut-être quotidien. C'est l'éclosion d'un don et son déploiement. C'est, après un passage difficile, l'ouverture sur un nouvel horizon. C'est le lieu et le moment où l'attendu devient inattendu. C'est une ouverture à d'autres possibles. C'est la place donnée à l'inimaginable, à l'inespéré. C'est s'ouvrir à l'impensable, à l'imprévisible. C'est un chemin vers l'inconnu, comblé de la présence du Christ. Je lis un extrait du psaume 22. Car le malheureux qui est accablé, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas rejeté. Il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je te louerai dans la grande assemblée, que ceux qui cherchent le Seigneur l'acclament, qu'ils aient une longue vie.
À rentrer dans cette joie de la résurrection en vous levant si vous le pouvez. Mais je n'ai ce contraste, on vient de chanter « Quand je songe à l'infâme croix, Jésus fut meurtri pour moi ». Chantons maintenant qu'au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. Et même si c'est le matin, c'est dimanche, c'est difficile, on va entendre des cris de joie, il est ressuscité, alléluia.
Il est vraiment ressuscité.
Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire à son nom, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tous. Parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin. Chanterons sans fin tes louanges. sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu.
Pourtant, le dimanche matin, dans le jardin, les femmes qui arrivent, elles ne connaissent pas la fin de l'histoire.
Nous sommes donc dans une trajectoire entre Marc 14 et Marc 16. Et dans votre Bible, vous avez peut-être, probablement, la fin du chapitre 16 de l'évangile de Marc entre des crochets. La plupart des spécialistes des Saintes Écritures s'accorde pour dire que cette conclusion de l'évangile de Marc, les versets 9 à 20, est une conclusion ajoutée beaucoup plus tard à l'évangile. En tout cas, 2 siècles après sa rédaction. Alors, cette conclusion, les versets 9 à 20, n'a rien de problématique. Elle reflète assez fidèlement ce que les autres évangiles plus tardifs disent des apparitions du Christ ressuscité et de la mission qu'il a confiée à ses disciples. C'est pourquoi la plupart de nos Bibles ont intégré depuis longtemps cette fin d'évangile à l'évangile de Marc. Maintenant, il est absolument certain que dans sa version première, l'évangile de Marc, tel qu'il a été initialement inspiré, l'évangile de Marc se terminait au verset 8. Et il faut le dire de façon assez abrupte. Si abrupte que certains ont jugé bon d'ajouter 2 siècles, 3 siècles plus tard une autre conclusion pour adoucir un peu cette première conclusion abrupte. Mais pour nous ce matin, je vous propose de nous en tenir à la version originale et de lire le récit du matin de Pâques tel qu'il se trouvait dans la première version achevée de l'évangile de Marc. Nous n'irons donc pas au-delà du verset 8, et lirons Marc 16, 1 à 8.
Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, qui était très grande. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme, assis à droite, qui portait un vêtement blanc, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayées. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
Même avec cette fin abrupte qui nous surprend un peu, le récit qui termine l'évangile de Marc affirme sans ambiguïté la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Le tombeau est vide. La pierre a été roulée. Un messager l'affirme avec force. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, faut-il le rappeler? Il est ressuscité et il n'est pas ici. Et là, d'emblée, il y a deux absences dans ce récit qui lui donnent comme un goût d'inachevé, mais deux absences, à mon avis, tout à fait volontaires dans l'esprit de Marc. D'abord, Jésus lui-même est absent. Pour le rencontrer, les disciples devront se mettre en route pour le retrouver en Galilée. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Mais il n'est pas ici. Jésus est absent du récit. Et puis le récit se termine sur le silence des femmes, leur absence de témoignage. Ici, elles ne vont rien dire à personne. Elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Elles avaient peur. Chers frères et sœurs, les trois femmes qui se rendent au tombeau ne sont pas animés comme nous le sommes, nous, aujourd'hui, par la bonne nouvelle de Pâques. Ce n'est pas pour elles la vie malgré tout et les promesses qui lui sont liées. Ce n'est pas ça qui les attire vers le tombeau de Jésus dès les premières lueurs du jour, un jour qui s'annonçait pour elles sans éclat. Marie-Madeleine, Marie et Salomé vont à la tombe, non comme des papillons attirés par le soleil, mais comme nous tous et toutes, attirés par ce qu'il y a de morbide dans la vie. C'est la mort d'un proche qui attire ces femmes. C'est le cadavre de Jésus qui les fait se lever. C'est la mort de leur ami qui les met en route tôt le matin. Ces femmes, elles sont comme nous. Comme nous qui faisons un détour pour voir un accident de plus près. Comme nous qui sommes fascinés par un incendie. Comme nous qui avons passé de longues minutes devant les spectacles des tours s'effondrant il y a quelques années à New York. Nous qui avons un œil rivé sur les chiffres de la bourse que nous servent les distributeurs automatiques de mauvaises nouvelles et un autre œil rivé sur les annonces de décès. On peut reconnaître qu'il y a tout de même une exception notable sur les réseaux sociaux. Une sorte d'anomalie qui confirme la règle, c'est cette folle passion de beaucoup pour les vidéos de chats. Comme si on avait besoin que toute la proté du monde soit balancée par des choses toutes mignonnes. Ces femmes, c'est nous qui avons une attirance morbide pour ce qui se dégrade. Pour ce qui est dégradé, pour ce qui blesse. Ces femmes, c'est nous qui sommes les spectateurs captifs des scènes de violence, de harcèlement, de ces scènes où les anti-héros prennent le dessus. Ces femmes, c'est nous, avec cet attrait pour tout ce qui ne va pas, pour ce qui ne va pas dans le sens de la vie, d'une vie plus grande, plus épanouie, plus affermie, plus joyeuse. Ces femmes, elles se sont rendues au tombeau, non pour vérifier la prophétie selon laquelle Jésus serait ressuscité le troisième jour. Il n'est pas question de ça dans l'évangile de Marc. Ces femmes se sont rendues au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, pour le maintenir en l'état, pour empêcher que la poussière retourne à la poussière. Il y a dans leur geste une forme de fétichisme, une volonté de conserver l'objet de leur affection, de faire de Jésus un objet et un objet définitif. Comme si le corps de Jésus avait finalement plus d'importance que sa vie, que sa personnalité, que son âme, que le message qu'il a délivré, que le Dieu auquel il a rendu témoignage. Ce n'est pas la vie qui intéresse fondamentalement ces femmes qui veulent garder l'image qu'elles ont de leur Jésus. Quitte à ce que cette image n'ait aucun rapport avec le réel. Notons d'ailleurs que ce n'est pas vraiment au tombeau que les femmes se rendent, mais au mémorial dans lequel Jésus a été déposé. Et Marc est le seul des quatre évangélistes à utiliser ce terme. Marc ne parle pas de tombeau. Marc parle d'un mémorial. Il dit en grec « mnemeion ». En grec, mnemeion, un mémorial, non pas tophos, comme le disent les autres, pour désigner une tombe, un tombeau. C'est l'usage d'utiliser ce mot, tophos. Mais Marc dit mnemeion, mémorial. Mnemeion, qui signifie la mémoire, comme ce procédé mnémotechnique qu'on utilise pour se souvenir, nous, de quelque chose. Jésus a été comme déposé dans la mémoire morte de l'humanité de quelques-uns. Jésus stocké, archivé, classé. C'est une façon d'essayer de bloquer le temps et de bloquer l'histoire. C'est donc une façon de bloquer la vie. Et ces femmes, à ce moment de la journée, sont tout entière absorbée par la mort. Ce sont des êtres vers la mort, pour reprendre cette expression du philosophe Martin Heidegger. Des êtres vers la mort, qui ont inconsciemment un goût prononcé pour la mort et pour ce qui est mortel. Mais heureusement, voilà que ces femmes se trouvent freinées dans leur élan vers la mort. Un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, ce qui peut faire penser à un messager divin dans l'imaginaire populaire, un ange, cherche d'abord à les rassurer de leur épouvante. Et ensuite, il leur délivre le message capital, qui est le cœur de leur expérience de Pâques. Et le cœur de ce message capital, c'est que la vie n'est pas dans un mémorial. Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire maintenant ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. On a voulu enfermer la vie à double tour au fond d'un trou qui tiendrait lieu de mémoire intemporelle. Mais la vie a été plus forte. La vie a déjà filé au loin et cette vie, elle vous attend. Ne restez pas là à vous morfondre. Filez vous aussi, allez en Galilée, là où Jésus a rencontré des gens, là où il les a écoutés, soignés, aimés, enseignés, étonnés, bouleversés, là où il a vécu, là où la vie a été rendue possible. Le jeune homme, c'est un ange, un messager au sens où lui porte dans sa parole la vie de Dieu. Ce qu'il dit, c'est la vie de Dieu. On peut se souvenir ici que le nom propre de Dieu dans la langue hébraïque, Yahweh, est construit sur le verbe advenir, dans une forme qui indique autant le présent que le futur. Le Dieu qui est et qui sera. Le nom propre de Dieu indique le fait d'advenir et d'advenir encore. Ce jeune homme, il est donc porteur d'une toute autre histoire que celle que ces femmes et celle que nous tous et toutes nous incarnons trop souvent. Ce jeune homme, messager de Dieu, il est porteur de la vie. La vraie, la belle, la grande vie. Ce jeune homme, messager de Dieu, il est là pour susciter et pour ressusciter la vie. Là où justement la vie est malmenée, là où elle est rendue impossible, là où des blocages l'atrophient, là où les peurs et la violence ont pris la place de la liberté. Ce jeune homme, messager de Dieu, il est du côté de ce qui encourage la vie, de ce qui ne se résigne pas à l'abandon de la vie, au chaos et à l'absurde. Ce jeune homme, il est du côté du corps médical, qui n'abandonne pas les malades à leur triste sort. Ce jeune homme, il est du côté de la puissance public qui n'abandonne pas les citoyens à la dégradation de la société, mais leur vient en aide. Ce jeune homme, il est du côté des journalistes, des chercheurs, qui prennent les faits, mais les interprètent aussi. Ce jeune homme, il est du côté des enseignants et des enseignantes, qui œuvrent pour l'éclosion de l'intelligence et du savoir chez chacun, chez chacune. Il est du côté des pasteurs, des prêtres, des théologiens qui œuvrent pour l'éclosion du goût de la vie dans sa plénitude, dans la conscience, dans la liberté. Ce jeune homme, il est du côté de tous ceux et de toutes celles qui prennent le contre-pied de l'attirance vers tout ce qui ne va pas et qui s'implique pour le mieux. Ce jeune homme, c'est une âme tendue vers un idéal de vie qui est finalement la vie elle-même et tout ce qui favorise la vie. Ce jeune homme, il est du côté du principe de responsabilité développé par tant de philosophes au cours des siècles, qui disent que notre plus grande responsabilité en tant qu'être humain est qu'il puisse y avoir encore des responsabilités à assumer. Ce jeune homme, il est du côté du Christ, qui nous ouvre à une vie abondante, où plus rien n'est sclérosé. Et voilà que c'est cette responsabilité-là, cette responsabilité retrouvée, celle d'aller dire aux disciples de Jésus que l'histoire n'est pas finie, que le mémorial n'était décidément pas une bonne idée, parce que ce n'est pas un endroit qui convient à la vie de Dieu, un mémorial. C'est cette responsabilité retrouvée qui devient la cause d'un profond effroi chez les femmes. Au sens stricte du terme grec, les femmes ont là une phobie, une vraie peur. C'est traduit chez nous par « elles sont effrayées ». Le mot grec, c'est phobie. Elles sont mortes de peur. Et c'est ainsi que se terminait l'évangile de Marc, avant qu'il ne soit complété plus tard par une autre main. L'évangile de Marc, il se terminait initialement sur l'expérience de Pâques, qui en fait provoque la peur des premiers témoins. C'est la peur devant l'inconnu, devant ce qui échappe au savoir, à la connaissance abstraite, devant ce qui échappe à l'expérience, au raisonnable. C'est la peur de celui qui ne maîtrise pas le cours des événements, qui est comme dépassé, submergé par les tenants et les aboutissants de l'histoire. C'est la peur de celui qui est saisi par la vie qui nous est toujours quelque peu étrangère, la vie qui échappe toujours à nos définitions, à nos espoirs, à nos vœux, à nos projections, à nos certitudes, la vie qui est infiniment plus vivante que l'idée que nous nous en faisons. C'est la peur de celui qui est déstabilisé parce que la vie est infiniment plus jouissive que ce qu'il envisageait. En conséquence de quoi, il perd ses repères et constate que ce qu'il tenait jusqu'ici pour la vie n'était que l'ombre de la vie, ou plus exactement, la vie placée dans l'ombre de la mort. Et voilà que le jeune homme du tombeau permet aux humains de faire les quelques pas qui leur manquent pour sortir de la vallée où règne l'ombre de la mort et pour se rendre là où le bonheur et la grâce sont permis. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit dit au sujet des femmes qu'elles subissent un trauma. Et que là, là seulement, elles se mettent à exister. Ce sont les deux termes grecs qui sont enfouis sous nos traductions gentillettes qui disent le plus souvent peur et trouble, tremblement et stupéfaction. Le grec dit qu'il y a d'une part un traumos, un trauma, et d'autre part, une extasis, une extase, un trauma et une extase, un choc et une révélation. Le trauma de Pâques, il consiste à faire l'expérience radicale du désir de vivre. C'est ce qui définit Dieu. Et là, le vertige peut nous gagner, le vertige me gagne. Le vertige de se découvrir plus grand, plus vaste, plus libre que ce que l'on imaginait. Le vertige de découvrir des ressources internes qu'on ne soupçonnait pas pour faire face enfin aux catastrophes de la vie. Le vertige devant tout ce qui est possible. Le vertige aussi devant tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a laissé passer, tous nos actes manqués, tout ce qu'on a enfoui dans sa mémoire au lieu d'en vivre. La résurrection ici, c'est la prédication qu'il n'y a pas lieu de sonner la fin de l'histoire. Il n'y a pas de place pour la désespérance, frères et sœurs. La résurrection, c'est cet encouragement divin à se lancer dans l'aventure de la vie, selon ce qu'a vécu Jésus qui nous a ouvert le chemin, la vérité des choses, Jésus qui nous a précédés en Galilée, là où il nous a révélé ce que vivre veut dire. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà 2000 ans que ce message extraordinaire est proclamé par les chrétiens et les chrétiennes du monde entier. Nous ne voulons pas rester ni dans la peur, ni dans le silence. Car c'est une bonne nouvelle pour toutes et pour tous, source d'une espérance éternelle, d'une extasis. Cette bonne nouvelle, elle est non seulement à proclamer aujourd'hui encore, mais elle est aussi à vivre à chaque instant de nos vies. Elle nous concerne. Elle grandit en nous par une rencontre sans cesse renouvelée avec le Christ qui est vivant sur les chemins où il nous attend. À nous de discerner alors quelle est notre prochaine étape. C'est quoi la route ? C'est quoi le chemin ? Où est-ce que je vais le rencontrer ? Où est-ce qu'il va pouvoir me rejoindre ? Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.
Je vous laisse une ou deux minutes pour peut-être prendre le temps de lire ce texte de Marion Muller-Collard. Et je vous invite à vous lever avant que nous chantions. Nous pouvons, si vous le désirez, lire cette prière ensemble. Donc je vous invite à vous lever. Nos questions inutiles nous agitent comme des papillons de nuit. Quelque chose nous retient aux marges de ta lumière. Nous nous prenons les ailes dans le filet des inquiétudes. Nous ne voyons pas plus loin que le bout du possible et nous n'imaginons que le déjà connu. Bien souvent, nous ne savons ni pourquoi ni comment un lendemain arrive et la lumière neuve que nous n'attendions plus. Hors de notre vue, tu as roulé la pierre de nos enfermements. Tu ouvres dans nos vies l'espace pour l'incroyable. Et nous reconnaissons ta voix dans le jardin où germent tous les possibles.
Chantons Rédempteur du monde.
Rédempteur du monde. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit.
Je vous invite à rester debout pour une parole de bénédiction et nous conclurons ce temps par un chant tous ensemble. Et j'emprunte cette parole de bénédiction toujours au psaume 22 dans sa magnifique conclusion. Que les populations les plus lointaines se souviennent du Seigneur et reviennent à lui. Que les familles de toute la terre se prosternent devant lui, car le Seigneur est roi. Il règne sur les peuples. Ceux qui sont pleins de vie mangent et se prosternent devant lui. Et devant lui aussi s'agenouillent tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent se maintenir en vie. Leurs descendants le serviront. On parlera du Seigneur à la nouvelle génération. On racontera à ceux qui vont naître ce que Dieu a fait dans sa justice. Fort de ce que Dieu a fait dans sa justice. Allez dans la paix. Parlez de lui, recevez sa grâce, poursuivez la route. Il vous attend et nous chantons ensemble. À toi la gloire.
Je vous invite à faire retentir ce chant à toi la gloire, qu'on puisse faire retentir sur la terre comme on chantera à toi la gloire dans le ciel, avec force et louange.
Danger descendu, il vous sauveur, ton maître. On ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et le dis sans cesse que Christ est.
Gloire à Dieu, allez dans la paix et dans la joie. À bientôt.